Thierry Raspail, bonjour. Donc, vous sortez d'un débat au Forum Lyon Libération. Il était question du musée 2.0. Alors, en général, les musées, c'est d'abord des objets à déplacer, c'est des questions de sécurité pour qu'ils ne s'en aillent pas sans qu'on y prenne garde. Alors, qu'est-ce que peut vouloir dire un musée 2.0?
Et on s'est interrogé sur le titre, d'ailleurs. Le premier des mots qui a été prononcé, c'est celle qui organisait le débat, était de dire « je ne comprends pas tout à fait le titre ». Donc nous allons parler d'autre chose, nous allons parler du musée sans mur, du musée hors les murs, nous allons parler justement de cette nécessité de revoir et de corriger les principes qui régissent aujourd'hui les musées, le cadre étroit de l'histoire de l'art, la période, la chronologie, et j'insistais beaucoup moi sur la nécessité de construire un discours, c'est-à-dire d'une certaine manière de reconstruire les discours, en tout cas de se frotter à ce qu'on va appeler l'élargissement des esprits, on peut appeler ça la mondialisation.
Alors, on a vu pour les musées que la mondialisation commençait par, comment est-ce qu'on peut dire, du marketing et l'idée de filiales, de musées, qu'on a une grosse institution américaine qui a des filiales à Venise, à Bilbao, d'autres qui... À quand des biennales qui ont des...
Alors, c'est la vision, je dirais, c'est la vision juste, mais... Comment dire, archétypal un tout petit peu. C'est vrai que les grosses institutions, et généralement par musée, on entend le Louvre. C'est-à-dire le musée générique, c'est-à-dire le musée Napoléon, celui qui a élevé la rapine à l'idée d'un art international. Hein, je récupère tout, c'est-à-dire je me fabrique mon disque dur à moi. Mais il y a des tas de musées. Et la mondialisation, ça n'est pas le principe de la reproduction du même ailleurs. C'est au contraire, et vous avez prononcé le titre, le terme, ce qui se passe au niveau des biennales, qui certes ne sont pas des musées, mais qui sont ces lieux de construction de discours à l'échelle de la planète, discours qui sont construits par des gens qui nous ressemblent dans la mesure où ils sont des hommes comme nous, qui partagent notre temps, mais qui sont probablement, qui relèvent d'empires à défaut de civilisations différentes. Et ça, ça construit justement ce frottement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les artistes indiens qui n'ont pas connu la modernité? Est-ce qu'on condescend de façon paternaliste à les intégrer? Comment eux pensent leur absence de modernité? Comment eux inventent leurs musées qui n'ont pas cette tradition, comme nous l'avons fait nous après 1793, de récupération des biens? Ça, c'est important, c'est intéressant, et je pense que cette question des musées à l'échelle, enfin à l'époque de la mondialisation, viendra probablement d'ailleurs. Il y a encore quelque temps, nous étions persuadés d'avoir inventé la philosophie, hein, puisque nous prétendions que les Indiens étaient sages, que les Chinois, avaient quelques préoccupations.
Lettrés, en tout cas, oui.
Voilà, mais la philosophie, c'était grec. On a, de façon caricaturale, le même état d'esprit à modifier à l'intérieur même du champ des musées. Qu'en est-il de l'histoire de l'art? C'est un petit peu la question qui nous a rassemblés tout à l'heure.
Mais c'est quand même très différent selon les contextes, je vais aller dans votre sens, parce que quand en Colombie, on récupère des anciennes icônes ou des peintures religieuses et qu'on les remet dans un contexte où les martyrs chrétiens représentés par les peintres venus d'Espagne ou inspirés par l'Espagne deviennent le symbole d'une peinture évoquant ou d'une création évoquant les guérillas d'Amérique latine ou les dictatures, on comprend qu'il y a un contexte de revisitation de l'histoire nationale à travers le musée. Mais en Chine, quel lien peut-il y avoir entre ce qui se passe à Shanghai aujourd'hui et l'esprit plus ancien de l'empire des mandarins? Et y a-t-il pas là des ruptures complètes qui rendent l'art contemporain comme une sorte de surcouche qui vient encore achever la destruction des vieux quartiers de Pékin ou de la ville ancienne de Shanghai?
Alors, la destruction des vieux quartiers de Pékin, c'est une destruction selon nos propres critères. Je ne suis pas pour la destruction, hein, mais non, c'est une vraie question. Et on en a beaucoup parlé, notamment avec ces artistes dits d'outre-mer, les premiers artistes chinois qui ont appartenu à la modernité chinoise. De leur point de vue, eux sont absolument convaincus qu'il n'y a pas de rupture. Par contre, le pont qu'ils essayent de faire, c'est entre ce qu'il reste de leur tradition ancestrale et la modernité de l'Occident. En gros, leur stratégie n'est pas de mettre le couvercle sur une tradition chinoise, que nous avons beaucoup de peine d'ailleurs à déceler, hein, de la même manière que nos jeunes enfants ont de la peine à déceler la réalité d'une descente de croix aujourd'hui dans n'importe quel musée d'art occidental. Par contre, eux ont essayé justement de faire le pont et de satisfaire, en fait, le regard occidental, avec beaucoup de stratégies. C'est le cas de Sai Kuchong, c'est le cas de... Ça, c'était la première génération. Ils y sont parvenus. La vraie question, maintenant, c'est la deuxième génération et la troisième génération de Chinois qui doit éviter deux choses. Un, le phénomène marché, les fameux nouveaux riches chinois qui accumulent des trésors qui n'ont de réalité qu'à l'intérieur, j'allais dire du périphérique, à l'intérieur de la Chine continentale. Et deux, l'oubli de leur histoire. Mais ça, seul le futur le dira. Pour l'instant, moi, je reste assez optimiste. Bien évidemment, aujourd'hui, pour répondre à la question, ce qui se passe à Shanghai, dans les galeries ou à la Biennale de Shanghai, ne dit rien du mode de pensée, du mode d'organisation communiste, de la situation sociale que vivent les Chinois. Ou alors, ça filtre de façon extrêmement diffuse. En revanche, ça filtre beaucoup chez ces premières générations d'outre-mer, mais qui, eux, se préoccupent moins d'une réalité politique locale, alors peut-être sont-ils à leur tour déformés, que de ce retour au néolithique, c'est de dire, voilà, le monde est né il y a 5000 ans, il n'y avait déjà pas de centre, on a partagé toutes nos inventions, et ces idées de croire en des essences, il y aurait une essence de la civilisation chinoise, qu'il y aurait une essence de l'Occident, n'existent pas, il n'y a que des processus, il n'y a que de l'historique, y compris de l'histoire au quotidien. Revenons sur ces phénomènes-là. Alors, à court terme, c'est dangereux parce qu'on a le sentiment que ces Chinois ne parlent pas de leur temps, ne revendiquent pas, à l'exception d'un ou deux qui sont d'ailleurs en prison, à Huawei hein, par exemple, n'attaquent pas le système. Je pense qu'ils sont sur du moyen terme et qu'ils sont, à mon avis, sinon dans leur société chinoise, du moins dans le temps du retour au moins 5000 ans, c'est-à-dire du retour à parlons-nous malgré ou avec nos différences si toutefois nous en avons.
Donc ce serait le point commun serait cette capacité de la Chine à travailler sur le très très long terme, beaucoup plus que nous.
À travailler sur le très long terme et justement, à mon avis, à détourner ce débat qui nous préoccupe un peu trop, qui est illustré par les subalternes, par les cultural studies, ce débat de l'universel et du relatif. Nous, on oppose toujours l'universel, la communauté. Le jeu, dès lors qu'on est du côté du jeu, Gers le dit, on est toujours ethnique dès lors qu'on est local. Hein. Et les Chinois, d'une certaine manière, tout en étant, pardon, pleinement chinois, je ne saurais développer trop parce que je risque de m'enferrer, mais tout en étant de caractéristiques chinois, c'est-à-dire ne rien oublier de ce qui a fait leur histoire, travaillent justement sur ces ponts. Et d'ailleurs, ils l'ont réussi en étant à l'époque au Japon, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler en Chine, en étant à Paris, en France ou en étant aux États-Unis. Et là, je crois qu'il y a ça. Alors, avec les Indiens, c'est tout différent. Le vrai drame, c'est vraiment l'Afrique, parce que l'Afrique a une histoire, c'est une histoire parcellaire, mais elle n'a surtout pas l'économie qu'ont réussi à s'inventer les Chinois et les Indiens. Et là, je crois qu'on a beaucoup à se préoccuper de l'Afrique. Alors nous, parce que pour nos positions néocoloniales, etc., etc. Mais comment faire en sorte, sans être paternaliste, que l'Afrique, et on dit l'Afrique, ne soyons pas, soyons hétérogènes, que les Africains, les ethnies, les peuples, les États inventent leur propre histoire et nous la véhiculent et s'insèrent dans notre propre réalité. Une question simple, pour plein de raisons qui ne sont pas de bonnes raisons, nos amis australiens tentent d'intégrer les aborigènes. Nous essayons tant bien que mal de nous en sortir très mal de nos histoires colonialistes, nous en France. Mais la vraie question, c'est à quel moment nous, par exemple, allons-nous, nous Européens, notre histoire de l'art va-t-elle s'intégrer dans l'histoire des Bambara? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que l'Africain doit être toujours celui de la diaspora qui doit venir forcément, je ne sais pas où, à Gand, en France, hein, pour faire valoir en retour sa réalité d'Africain synthétique? Ça, c'est une vraie question. Et donc, c'était, entre autres, pour revenir à toute première question, ce dont nous avons parlé précédemment, qui sont, à mon avis, les vraies questions.
Donc, c'est des questions très importantes. Moi, je me souviens d'avoir rencontré un ethnologue français qui partait en Papouasie avec des représentations de Picasso ou de Raphaël pour montrer aux personnes qu'ils rencontraient là-bas ce qu'étaient nos idoles et leur voir avec eux quel effet ça pouvait leur faire. Et donc ils disaient, on prend ce qui est chez vous, mais prenez aussi ce qui vient de chez nous. Mais si je comprends de façon paradoxale, vous prendriez les biennales d'art contemporain comme une capacité de capillariser une partie de la production autochtone, autonome, indépendante, et de, vous vous feriez le porte-parole des consciences allogènes ou des alter-consciences. Dans un lieu comme la Biennale de Lyon.
Alors, c'est probablement parce qu'on est parti dans cette histoire de la Biennale de Lyon que je tente de coûte que coûte de sauver le schéma des biennales. Mais ce que j'observe néanmoins, et Biennale n'est pas musée, entendons-nous, c'est que ce formidable succès des biennales, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, encore une fois, on est passé de 15 biennales dans les années 70 à 300 biennales aujourd'hui. Il y en a à Singapour, à Brisbane, à Sydney, il y en a à Troyes, il y en a à Canton, il y en a à Shanghai, etc. Il y en a à peu près partout, et ce sont souvent des revendications géostratégiques. À mon avis, elles sont porteuses, en tout cas, j'ose espérer être optimiste, de cette période d'après le poste dans laquelle nous sommes. Chose que n'ont pas pu faire les musées, parce que les musées sont attachés à des collections.
C'est ça, c'est la différence entre installation et collection.
Voilà, façon. Et donc, moi je compte beaucoup là-dessus, parce qu'on a beaucoup dit des biennales, que c'était le marché, que c'était le folklore, que c'était le gigantisme, qu'il y avait des artistes de biennales qui se singeaient eux-mêmes pour appartenir à ce grand... Certes, tout ça est vrai, mais n'empêche que la triennale de Brisbane est la seule qui aujourd'hui, sans critères identitaires, essaye de montrer en quoi, à l'intérieur même de la Corée du Nord, il y a quelque chose qui ressemblerait à de la création, de la créativité, de l'art. Et ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, le statut de l'artiste de la Corée du Nord, comment être et ne pas être, par exemple. Et ça, c'était le débat, en tout cas, la question posée par cette triennale. Aucun musée, aujourd'hui, ne peut poser ça. Soit il va s'en tenir à la Corée du Nord comme sujet politique, mais jamais il ne l'associera à la géographie du Vietnam, voilà. Et ça, à mon avis, les biennales, dans leur configuration extrêmement différente, peuvent le faire. Istanbul... Parce que Istanbul est sur cette espèce d'enjeu comme ça, Orient-Occident, peut s'interroger sur des critères qui relèvent à la fois de l'iconophagie, l'iconologie, toutes ces questions liées à l'image dans ces lieux-là. Et c'est en plus attractif, puisque bien sûr, c'est assez facile et probablement dangereux pour les grands collectionneurs américains d'aller. Bon, ça, ce sont les mauvaises raisons d'aller à Istanbul. En revanche, cette réalité est très importante. Quand l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid, les premières opérations, qui hélas n'ont pas eu de lendemain, qui consistaient à démontrer que le pays désormais existait culturellement, ce ne sont pas les opéras, parce que c'est quoi ? C'est une biennale, la biennale de Johannesburg. Alors elle a voulu trop vite être dans un champ international, et à ce titre-là, elle n'a pas probablement tenu compte d'une réalité locale. Mais ce schéma-là, en tout cas dans les arts visuels, est à mon avis une très bonne réponse, et une réponse neuve, aux deux autres enjeux qui sont la foire de l'art, donc le marché qu'on trouve de Miami à Bâle, Paris, mais bon, qui est une certaine forme de libéralisme, d'activisme, c'est aussi l'art, et puis l'autre, cette autre réalité que sont les musées structurants, dont Beaubourg, la Tate Moderne ou le MoMA à New York sont, je crois que les biennales correspondent à un troisième schéma, un troisième modèle qui est inabouti, et heureusement, controversé, mais c'est là, à mon avis, où les questions se passent, où les questions peut-être les plus importantes se passent.
Est-ce que cette possibilité est donnée en partie par le numérique et le fait de pouvoir disposer d'échanges, d'images, de réseaux dont la biennale physique serait l'émergence périodique ?
C'est incontestable. Je veux dire, les biennales correspondent à l'âge de l'écran, c'est l'âge des flux. C'est l'aspect incontrôlable du flux des images, y compris en Chine, qui a fait que la Biennale de Shanghai est née, parce que le pouvoir n'a pas pu résister. Il a fallu, pour exister, répondre à la Biennale de Taipei, qui était en face. Et ça, c'est le poids du numérique, c'est le poids de l'écran, hein, du flux. Et ce flux fait que, très vite, les artistes chinois, par exemple, mais les artistes indiens, et aujourd'hui les artistes d'Afrique qui sont équipés, converse, discute, c'est les chats, c'est les échanges, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on sait, c'est l'hypertexte. Et ça, ça contribue justement à cette appropriation de toutes les images possibles et ce bricolage de toutes les images possibles qui fait qu'on assiste aujourd'hui à de nouvelles générations d'artistes. Mais si, en face de cela, ce sont ceux qui sont sur les écrans qui finissent par être dans les biennales avec des œuvres dites non numériques. Ceux qui visitent les biennales, et je prends l'exemple de Lyon, 48%, 52% de moins de 26 ans, ce sont les mêmes qui sont devant les mêmes images numériques. Et cette, pour la première fois, il me semble, depuis très longtemps, on assiste à une harmonie générationnelle entre ceux qui produisent et ceux qui regardent. Et ils regardent probablement avec les mêmes codes qui ne sont surtout pas ceux de Kant, d'Hegel, de Wittgenstein, etc. Ça passe par moins de sens, moins de concepts, moins de mots et peut-être plus d'encyclopédisme d'images. C'est-à-dire que ça répond, ça, c'est là-dessus. Enfin, en tout cas, je suis peut-être naïvement optimiste, mais je crois que c'est absolument fondamental.
Est-ce que ce type de fonctionnement en images et sur écran transgresse les barrières linguistiques? Est-ce qu'on est plus sensible aux différences de culture et aux communautés possibles sans avoir besoin de tout traduire en anglais ou de ne pas comprendre l'arabe ou est-ce que...
La réponse est dans la question. Ce qui transgresse les langues locales, c'est l'anglais. Cet anglais de 50 mots que tout le monde parle. Mais à travers le numérique, l'anglais est l'équivalent d'un sous-titre. C'est-à-dire que ce n'est pas le discours premier. C'est-à-dire quand je ne comprends pas tout à fait le concept, appelons ça comme ça, qui pourrait se cacher dans l'image, j'ai éventuellement le support avec une rhétorique anglaise nulle. Mais enfin, les trois mots importants sont... Et donc, cet anglais-là, cet anglais de cuisine, est un anglais imagé. Et on retrouve de nouveau, puisque je rappelle quand même que le mot est quand même à voir avec le voir, comme l'image a à voir avec le voir, c'est donc deux formes de voir, et que toutes deux sont porteuses de concepts, même s'il y a un langage articulé d'un côté et un peu moins de l'autre. Ce sous-titrage ou cet anglais international, il est tellement primaire qu'il oblige à être compris par métaphore. Et ça, je crois qu'on retrouve donc justement, à travers ce mot primaire et cette image de l'écran, la capacité d'être... ce fameux intertexte de Rifater, c'est-à-dire là, on se fabrique soi-même ses propres critères et on s'invente ce qu'on devrait tous faire, hein, c'est la gentillesse, la gentilité, la capacité qu'on a de réagir le lecteur à son livre, il invente son livre dès qu'il le lit. Ça, c'est très 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 important et très présent, me semble-t-il, dans cette nouvelle communauté gigantesque des faiseurs d'images qu'on retrouve pour beaucoup dans les biennales comme producteurs et dans les biennales comme regardeurs.
C'est peut-être un peu ce que nous ont proposé Bernard Ortiz et Eric Beltran hier avec une performance où il était question d'intertexte et de relations équivoques et incompréhensibles finalement.
Déjà, Eric, alors évidemment, il partage le même langage, mais un est colombien, l'autre est mexicain. Hein, et il travaille, nous l'avons vu hier, sur des conférences qui ont été données par d'autres spécialistes, d'autres spécialités à d'autres âges. Et ce qu'ils relèvent, et ils ont une vision poétique, on va dire ça. C'est-à-dire que c'est pas l'aspect neurologique qui les intéresse. C'est je prends le mot et je vois comment ces mots se combinent et comment ils finissent par construire un discours sur l'image, sur l'iconologie, sur l'iconographie, sur l'histoire de l'art, sur l'œuvre d'art et donc sur la biennale, à travers des référents qui n'ont a priori rien à voir. Mais qu'est-ce que font-ils? Ils construisent un discours. Que faisait Napoléon quand il allait récupérer telle œuvre du Quattrocento ou telle coquille qu'il rassemblait? Elles étaient éloignées de plusieurs siècles et de quelques milliers de kilomètres. Elles se retrouvent à 50 mètres l'une de l'autre dans le musée. Bernardo et Ortiz, donc, et Eric Beltran, produisent, me semble-t-il, avec les outils d'aujourd'hui, non pas les mêmes types de configurations, mais en tout cas les mêmes formules d'invention. Et ça, je crois que c'est absolument formidable. C'est l'écran qui le permet, c'est ces nouvelles relations, et c'est aussi évidemment les biennales, etc.
Merci beaucoup.
Merci.